Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue donc dans ce nouvel épisode, ce nouveau numéro de l'Apprentissage Club BTP, votre club qui aborde les grands enjeux, les grands enjeux stratégiques de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans le BTP. Donc l'Apprentissage Club BTP, c'est bien entendu un événement qui a été imaginé par le 3CA BTP à destination des décideurs de la formation et de l'apprentissage dans le BTP.
Alors la digitalisation des pratiques et l'internationalisation des parcours, est-ce vraiment un vecteur ou des accélérateurs d'employabilité? C'est le sujet de notre apprentissage club BTP de ce jour, avec plusieurs référents experts dans le domaine.
Alors tout d'abord, sur le plateau, nous accueillons Paola Bolognini. Donc Paola, déléguée générale de, d'EuroApp Mobility, association qui a pour mission de développer la mobilité européenne, mobilité internationale, des apprentis et des alternants. Bonjour Paola.
Bonjour Franck, bonjour Isabelle.
Bonjour Paola.
Et donc en interview différée, nous aurons aussi André Tricot, professeur en psychologie à l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Midi-Pyrénées.
Franck Guillermo, un directeur opérationnel au sein du campus des métiers et des qualifications d'excellence BTP et usage du numérique. Bonjour.
Bonjour à tous les deux. Bonjour Paola.
Bonjour Franck.
Alors ensemble, dans cette première partie d'émission, nous regarderons en quoi consiste la digitalisation des pratiques de formation et pourquoi développer l'internationalisation des parcours aujourd'hui dans le secteur du BTP. Et notre deuxième séquence, qui se prénomme le Club et vous, nous permettra de comprendre quelles initiatives ont été prises sur le terrain, des initiatives qui fonctionnent évidemment, avec des témoignages d'experts, notamment Pascal Michet, Marek Lavinsky et Pierre Touillon, qui nous emporteront leur éclairage.
Et dans notre troisième partie, donc le Fauteuil Club, ce Fauteuil Club sera occupé par un homme politique que vous connaissez tous, plusieurs fois membre du gouvernement, ministre de l'économie, président de la commission des budgets du Parlement européen. Il est aujourd'hui président d'EuroApp Mobility. Jean Arthuis nous rejoindra pour nous livrer son éclairage sur la mobilité internationale, sur le digital et plus largement sur le contexte de l'emploi. Et enfin, nous conclurons avec le salon, notre dernière rubrique, le salon, avant de nous quitter et de passer à d'autres activités.
Alors tout de suite, c'est le démarrage de l'apprentissage club BTP de ce jour. C'est parti. Bienvenue au club, c'est l'intitulé de notre première partie dans laquelle on décrypte le thème du jour, la digitalisation des pratiques et l'internationalisation des parcours, des accélérateurs d'employabilité pour nos jeunes. Et on commence tout de suite avec Franck Guillermo, la première question est pour vous. Qu'entend-on par digitalisation des pratiques? D'abord, est-ce qu'on parle de digitalisation des pratiques? Si oui, quoi? Et de quel outil et quelle méthode parlons-nous exactement?
Tout d'abord, les campus des métiers et des qualifications... Il y en a énormément en France, il y en a 120, mais 14 spécialisés dans le domaine du BTP. Et ils sont là uniquement pour travailler pour la formation et les entreprises. Sur la digitalisation, c'est une transition numérique sur toutes les filières. Et donc, tous les usages et toutes les pratiques de digitalisation sont en place, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, mais aussi la 3D. Donc, tous ces usages-là sont compris dans la digitalisation des parcours de formation. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que ça doit amener une plus-value sur la formation ou dans l'entreprise et pas rester sur des choses que l'on pense. Vraiment amener une plus-value.
Alors justement, quand on a bien cerné les bons usages du digital, donc pourquoi est-il important de développer, de développer ce numérique dans le BTP et puis quel va être l'impact sur la formation et sur l'emploi?
Alors deux choses, on parle d'emploi et de formation, donc deux aspects différents. D'abord sur la partie emploi, la transition numérique et le digital va permettre d'améliorer la partie qualité, délai dans l'acte de construire, mais aussi il va amener une certaine rigueur. Ça, c'est indéniable. Ensuite, sur la partie formation, aujourd'hui, tous nos jeunes sont avec leur smartphone. Donc, ils sont attirés par ces contenus digitaux. Donc, ça va amener des jeunes sur l'attractivité des métiers. Ça va amener aussi une facilité à collaborer ensemble autour d'objets numériques. Le fait de les avoir et de pouvoir échanger autour de ces objets-là, c'est important pour eux. Et c'est important pour, justement, que derrière, ils retrouvent cette activité de collaboration qu'on peut trouver sur les chantiers autour du numérique.
Alors d'ailleurs, c'est intéressant, c'est le sujet que nous avons abordé avec André Tricot, donc nous allons avoir sa première vidéo, qui partage avec nous sa vision de l'usage du digital dans la formation, dans ses classes inversées et puis dans la transmission des compétences.
Alors les usages du numérique sont bien entendu une amélioration de l'employabilité, mais pas tant à un niveau général qu'à un niveau spécifique. C'est vraiment la maîtrise de tel type d'application pour telle profession qui vraiment apporte une plus-value quand on questionne l'employabilité. Les avantages du numérique dans le domaine de la formation professionnelle, ils sont très difficiles à définir, encore une fois, à un niveau général. On observe surtout des plus-values spécifiques. Quand on va s'intéresser, par exemple, au rôle du numérique dans la formation à distance, quand on va s'intéresser au rôle de la réalité virtuelle, quand on va s'intéresser à l'apprentissage de gestes techniques, on va trouver des plus-values extrêmement intéressantes avec le numérique. On va avoir, selon qu'on enseigne une discipline technologique ou une discipline fondamentale, par exemple, des apports complètement différents. Ça dépend bien entendu et avant tout des métiers auxquels on forme. Si je travaille dans tel secteur industriel, pour tel métier, je vais avoir, parce que dans ce métier, il y a telle et telle compétence qui sont mobilisées, des apports spécifiques très intéressants. Les outils numériques dans le cadre de la formation à distance sont extrêmement importants, on s'en est rendu compte pendant le confinement. Le numérique permet de faire des choses quand par exemple on ne peut pas se déplacer, quand par exemple on ne peut pas assister à une formation en présentiel. Concevoir une bonne formation à distance, ça reste concevoir une formation. Et le point le plus important, c'est que je ne vais pas à distance refaire la formation que je faisais en présence. Je vais devoir l'adapter. Autrement dit, mon métier reste le même, je reste formateur, je conçois une formation, mais les solutions que je vais trouver sont différentes à distance. Par exemple, en présence, je peux interagir visuellement avec mes stagiaires. Je peux repérer qui comprend, qui ne comprend pas, qui est attentif, qui n'est pas attentif. Ça, à distance, c'est extrêmement difficile. Mais il y a d'autres choses. Par exemple, je peux donner à un moment à mes stagiaires des exercices à faire. Ben ça, faire des exercices à distance, c'est très facile et on ne perd pas.
Alors c'est vraiment un témoignage qui confirme ce que vous venez de nous dire, hein, Franck Guillamot. On reviendra sur le digital tout à l'heure, mais il y a un autre élément essentiel comme vecteur d'employabilité, c'est la mobilité internationale ou la mobilité tout court. Alors qu'est-ce que c'est concrètement la mobilité, Paola ?
Alors qu'est-ce que c'est la mobilité ? La mobilité, c'est une expérience de formation, son expérience humaine, culturelle, professionnelle également, nos apprentis, nos alternants peuvent effectuer dans un pays autre que la France.
Alors, au niveau des organismes de formation, qu'est-ce que ça implique concrètement de mettre en place un parcours de mobilité internationale ?
Ça implique un travail collaboratif. Donc, je pense à ce qu'il disait Franck tout à l'heure sur le digital. Un travail collaboratif important, une recherche active des partenaires idoines à recevoir les apprentis ou les alternants français. Un travail aussi d'accueil des apprentis étrangers qui peuvent, et on espère, verront en France. Donc une véritable dynamique d'équipe dans nos organismes de formation qui s'ouvre de plus en plus à l'international. Et les organismes de formation du BTP sont des organismes de formation effectivement pionniers dans ces domaines.
Et alors Paola, donc justement, comment aider les structures à développer la mobilité européenne, à lever ces freins ?
Alors, c'est une mission importante, peut-être bien la première mission d'Europe Mobility, effectivement. Avant tout, avant de lever les freins, il faut les identifier. Donc, ces freins ont été identifiés avec un projet pilote mené par Jean Arthuis quand il était au Parlement européen, qui s'appelait à l'époque EuroApp. Ces projets, comme je disais tout à l'heure, permis d'établir un diagnostic. Voilà, les freins sont identifiés. Et là, Europe Mobility, avec les acteurs qui font partie de son conseil d'administration, qui sont les acteurs les plus importants de l'apprentissage en France. Les Traces BTP fait partie de ces clubs, mais il y a bien entendu un pléthore d'autres acteurs importants en France. Ils sont là justement pour déverrouiller les systèmes et permettre à cette mobilité de devenir une composante intégrante des parcours de formation de tous secteurs confondus, du coup, pas uniquement des secteurs du BTP, bien entendu.
Alors, en quoi la mobilité est-elle un vecteur, un accélérateur d'employabilité, concrètement ?
Alors, concrètement, il y a beaucoup d'études qui preuve que les apprentis peuvent acquérir des compétences techniques et professionnelles complémentaires à leur parcours de formation français. Mm-hmm. Donc, on a tous ces aspects des montées en compétences aussi de nos jeunes. Mais au-delà des compétences qu'on appelle dures, il y a aussi plein de compétences qu'on appelle douces, au sens, oui, en anglais, qui sont de plus en plus prisées, vous le savez fort bien, par les employeurs. Et je parle bien des compétences telles que l'adaptabilité, la capacité d'interagir dans un milieu différent, complexe, avec, par exemple, de nouveaux clients, de nouveaux interlocuteurs, d'autres corps de métiers. Dans le BTP, ça, on le voit énormément. Donc, par rapport aux bénéfices qu'on va avoir pour les jeunes, il s'agit de ces aspects que je viens de dénoncer. Après, il y a des bénéfices importants aussi pour les organismes de formation et les entreprises.
Alors justement, compétences comportementales, compétences métiers, donc on voit bien qu'il y a une multitude d'avantages pour les jeunes, pour les organismes de formation, mais qu'en est-il pour les entreprises ?
Alors, les entreprises, tout d'abord, les entreprises qui sont des entreprises formatrices, elles sont censées, et je pense qu'elles le seront de plus en plus, être interpellés par les organismes de formation pour créer des parcours de formation pour les jeunes à l'international qui, quelque part, vont répondre aussi aux besoins des entreprises en termes, par exemple, de marché. Donc ça, c'est vraiment les fameux triangles de l'apprentissage. Il prend tout son sens là aussi. Les centres de formation doivent, à mon sens et à notre sens, travailler en synergie avec les entreprises pour aller voir quelles sont les compétences utiles à l'entreprise que les jeunes pourront ramener en France, quelque part. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est quelque chose que, comme Europe Mobility, on porte énormément, c'est la réciprocité. Qui dit mobilité, dit réciprocité. Et accueillir un jeune étranger au sein de ses équipes a des avantages incroyables pour les entreprises françaises.
Alors Paola nous a bien mis en évidence le fait que la mobilité soit un accélérateur d'employabilité. Si on regarde côté digitalisation, est-ce que la digitalisation des pratiques est un vrai vecteur d'employabilité à votre avis, Franck ?
La réponse est claire et oui, mais pourquoi derrière ?
Pourquoi ? Voilà, exactement.
Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, les entreprises du BTP vont devoir en fait intégrer dans leur process de production à tous les niveaux le digital et le numérique. Et aujourd'hui, ils vont faire appel à des jeunes aujourd'hui qui sont en formation pour faire ce passage-là et devenir des ambassadeurs du numérique dans leur entreprise. Et le fait d'avoir digitalisé, numérisé par et pour le numérique sur les mêmes outils qu'ils voient en entreprise ou en formation, ça permet justement une meilleure employabilité des jeunes qui sortent aujourd'hui de l'apprentissage ou de l'école. Donc ça, c'est un vecteur très important. Et d'autant plus que nos jeunes aujourd'hui, ils ont une appétence pour ces outils-là. Ils connaissent bien, ils le maîtrisent. Et comme le disait Paola, ils sont adaptables par rapport à ça. Ils arrivent vraiment à bien palper ce numérique-là. Et ça permet derrière de pouvoir, avec les entreprises, faire ce passage-là. Donc c'est vraiment un point important d'employabilité, le numérique.
Merci Franck. Alors on va regarder la deuxième partie de la vidéo d'André Tricot qui nous parle justement du rôle du formateur par rapport à la digitalisation. Est-ce qu'effectivement le formateur va rester et reste au niveau de ses pratiques comme il le fait jusqu'à maintenant ? Et puis la notion effectivement que vous avez évoquée, l'autonomie des jeunes en formation avec la digitalisation. On écoute André Tricot.
Pour un formateur, utiliser des outils numériques, c'est une sorte de paradoxe. D'une part, ça ne change rien au cœur du métier. Le cœur du métier d'un formateur, c'est de concevoir un scénario pédagogique. Les questions que je me pose quand je conçois une formation sont les mêmes. Autrement dit, être formateur avec des outils numériques, c'est pas dire « voilà un outil numérique, comment je vais l'utiliser ?» mais plutôt « voilà mon scénario pédagogique, quel outil peut se mettre au service de mon scénario pédagogique ? Quel média, quel logiciel, quelles ressources ?» Je dois apprendre un dispositif technique complexe, une pièce avec énormément de composants. Ben aujourd'hui, j'ai des logiciels qui permettent de faire de la représentation 3D, de la 3D dynamique, qui me permettent de monter, démonter autant de fois que je veux. Et là, c'est un autre domaine dans lequel j'ai de la plus-value. Mais on voit bien que je ne vais pas, parce que j'ai un logiciel qui fait la 3D dynamique, monter ma formation à partir de cet outil. Une des vertus que l'on prête au numérique, c'est de permettre de développer l'autonomie des stagiaires. En fait, il n'en est rien. les outils numériques, quand on laisse les stagiaires se débrouiller tout seuls, ça marche avec les personnes qui sont autodidactes. La plupart des personnes, en fait, ont besoin d'un formateur pour les guider, leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, pourquoi le faire, expliquer le sens de l'apprentissage. De la même manière qu'en formation, on n'est pas plus autonome grâce aux outils numériques, c'est bien le contraire. Dans le monde du travail, les emplois actuels font toujours appel à des compétences essentielles de collaboration, de coopération. Savoir travailler, c'est savoir travailler ensemble. Et même les nouveaux métiers ne changent rien. Hein. Un des pionniers qui a inventé à peu près la moitié des concepts qu'on utilise aujourd'hui en informatique, a eu un projet dans les années 60 qui s'appelait le projet Augment, qui disait finalement l'informatique, ça va servir à augmenter les capacités des humains. Et la première capacité à laquelle penser ce génie, c'était apprendre à coopérer. On va développer la possibilité de travailler ensemble grâce aux outils numériques.
Nous venons de l'entendre avec André. Donc là, il y a effectivement un véritable enjeu sur la numérisation, mais surtout tout ce qu'il y a autour. Alors, nous avons entendu Paola, on vous a entendu Paola, Franck, sur vos sujets respectifs. Maintenant, si on faisait l'effet inverse, et donc Paola, sur la digitalisation, quelle est votre action sur le sujet, quelle est votre vision du sujet?
Alors, il faut savoir que la mobilité européenne des apprentis va de plus en plus avec la digitalisation. C'est-à-dire que non seulement il y a bien entendu de plus en plus d'outils, des suivis des alternants à distance. On parlera peut-être ensuite du projet Mon apprentissage en Europe, où on prévoit effectivement un développement d'une plateforme digitale. Ça c'est un support, disons, à la mobilité. Mais il y a aussi l'idée qu'un jeune puisse, par exemple, effectuer sa période de mobilité dans une entreprise étrangère, et pour autant pouvoir suivre un certain nombre de contenus pédagogiques dispensés en France par la voie du digital dans un pays étranger. Donc, quelque part, n'est pas reproduire l'alternance telle qu'on la connaît, 3 semaines, 1 semaine ou hebdomadaire, dans un autre pays européen, mais avoir toujours un support pédagogique digital, du coup, dès la formation à l'étranger. C'est là, c'est plutôt important parce que ça permet quelque part, après une fois que les jeunes sont rentrés en France, de pouvoir valider ses compétences acquises à l'étranger d'une manière plus aisée. Donc il me semble que la liaison s'est faite de cette manière-là.
Très bien, alors. Bah Franck, même question, mais dans l'autre sens.
Mais dans le campus, on a déjà intégré la mobilité de nos élèves, nos apprentis, puisque plusieurs structures coopèrent avec le campus pour envoyer 140 personnes à l'étranger, dans l'Europe, très prochainement, même si la Covid nous a embêtés un peu, on va le dire clairement. Aujourd'hui, les mobilités sont prévues entre novembre et juin prochain pour 140 à peu près. Mais moi, je voudrais revenir sur le fait que les deux s'associent, c'est-à-dire le numérique et la mobilité, comme vient de le dire Paola, au travers de supports pédagogiques, parce qu'aujourd'hui, le numérique peut être un support aussi d'échange, et que la barrière soit la langue, peut-être parfois, mais que le numérique enlève cette barrière, puisqu'ils vont voir quelque chose ensemble, sur un objet, sur du digital, et des outils qu'ils travaillent en France, en Italie, en Espagne, partout, de la même façon. Donc, du coup, le numérique peut être aussi, peut regrouper, en fait, c'est l'ensemble de ces deux thématiques, le digital en formation et la mobilité.
Tout à fait.
Merci Paola, merci Franck. Nous sommes touchés à la fin de la première partie.
Absolument.
Nous allons aborder maintenant une déclinaison plus terrain, plus opérationnelle de ce que nous venons d'aborder dans cette première partie. Nous allons passer au Club et vous. Jingle.
Alors le club et vous, c'est le moment de comprendre et de voir sur le terrain ce qui se passe pour effectivement au niveau digitalisation et mobilité. Et c'est notamment le témoignage d'experts. Donc on va écouter dans un instant Pascal Michet, responsable du pôle ingénierie et innovation pédagogique, puisqu'une séquence récurrente du club et vous, ce sont les regards croisés. Donc on va écouter tout de suite Pascal. Alors bonjour Pascal.
Bonjour Isabelle.
Alors le sujet de notre rencontre aujourd'hui, c'est la digitalisation comme vecteur d'employabilité. Alors déjà, quand on parle de digitalisation des pratiques, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle des pratiques pédagogiques? Est-ce qu'on parle d'autres choses? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point-là?
En fin de compte, ça touche un petit peu tout ça. Les pratiques pédagogiques, les pratiques d'apprentissage et surtout les modalités d'apprentissage, l'hybridation des parcours qui permet à la fois de travailler en présentiel, en distanciel ou avec d'autres modalités. Voilà ce qu'est la digitalisation aujourd'hui pour nous dans la formation.
Alors on sait que depuis 2 ans, hein, c'était un peu compliqué au niveau de la période Covid. Eh oui. On peut penser que la digitalisation s'est accélérée au niveau effectivement des pratiques de formation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce que effectivement, quels sont les éléments clés qu'on a pu ressortir de cette digitalisation, alors, de cette période?
Alors oui, je partage cette idée, effectivement. Ça continue d'ailleurs, hein, puisque la grosse évolution qu'on a pu voir pendant le Covid, c'est l'arrivée effectivement de la formation à distance, qui est venue, entre guillemets, suppléer le présentiel. Et petit point de vigilance pour ma part, tout ce qui est formation à distance ne vient pas là pour suppléer, mais vient là en complément du présentiel. Donc voilà, c'est là la clé d'entrée, la clé de réussite pour la suite de la formation multimodale. Il faut voir le distanciel comme un complément présentiel.
Alors justement, quelles sont les pratiques et les exemples de pratiques digitales qui ont bien marché et qui continuent à bien marcher?
Alors la première, on a un petit peu parlé, c'est tous les modules de formation qui sont créés par les formateurs et qui sont mis à disposition en ligne via cette plateforme LMS pour leurs jeunes.
Donc essentiellement du e-learning là, hein.
On parle du learning, effectivement. D'accord. Et puis quelque chose qui a vraiment émergé, qui continue d'ailleurs à bien être mis en œuvre, c'est les classes virtuelles. Parce qu'on a évoqué le mot juste avant, l'accompagnement. L'accompagnement aujourd'hui est essentiel pour un jeune, même en présentiel, mais qui plus est en plus en distanciel. Donc il est intéressant de temps en temps de faire un petit pas de côté avec lui par rapport à son parcours en distanciel, de dire voilà, on fait une classe virtuelle, on fait un point, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, et on l'accompagne justement à continuer son travail à distance.
Alors par rapport aux jeunes justement, est-ce que le digital aide à une meilleure intégration du jeune dans l'entreprise?
Alors oui, il y a un élément qui aide à l'intégration de l'entreprise, me semble-t-il, surtout sur les éléments de formation. Ce sont les modalités immersives qui permettent à un jeune d'être immergé dans une réalité virtuelle, mais réelle à la fois, avec tout l'environnement, les contraintes, les activités qu'il doit réussir. Et cela favorise à la fois sa mémorisation, mais surtout, ça lui permet d'acquérir de la méthode dans le travail.
Merci beaucoup, Pascal. Donc on voit effectivement que le digital est un super vecteur d'employabilité. On en reparle avec nos invités.
Merci Isabelle.
Merci beaucoup. On voit qu'il y a effectivement plusieurs exemples, hein, évoqués par Pascal. Et je crois, Franck, que vous avez 3 exemples majeurs à nous partager avec nous.
J'ai au moins 3 exemples.
Au moins, on va, peut-être
au moins,
plus.
Il y en a plus. Je pense qu'il y en a plus. Quand vous avez 25 structures d'enseignement qui travaillent avec vous, il y a beaucoup plus d'exemples. Mais je vais en citer 3 qui me semblent, qui vont dans le même sens que M. Michet vient d'évoquer. Le premier, c'est en fait la coopération et la collaboration entre le monde économique et le monde de la formation, en fait, autour du numérique. Il y a des élèves, ils ont créé une maquette numérique pour une rénovation d'un bâtiment. Et cette maquette, elle a été donnée à des salariés qui l'ont travaillée, qui l'ont vue sur leur smartphone, en échange avec leurs élèves, les élèves qui sont venus en stage dans leurs entreprises. Ça a permis de débloquer des choses d'un côté comme de l'autre. Donc on voit bien que le numérique et des maquettes sont là un lien et une coopération qui peut entre deux mondes académiques et professionnels. Un deuxième exemple, c'est comment aujourd'hui, pour des bacs pro, aller chercher de l'information avant d'aller en cours. Aujourd'hui, le fait de pouvoir associer du contenu numérique sur des espaces de travail ou sur directement même une maquette permet à des jeunes de s'auto-former en amont. Et ensuite, quand ils vont fabriquer un mur, rajouter la réalité augmentée pour faire du contrôle qualité, c'est très important puisque derrière, ils vont pouvoir vérifier grâce à un outil numérique que ce qu'ils ont entrepris, ce qu'ils ont fait, correspond à ce qui a été conçu. Et le troisième point, c'est tout ça, c'est nouveau pour les formateurs aussi. Donc, il faut les accompagner aussi à eux pour qu'ils puissent intégrer dans leur scénario pédagogique et dans leur pratique les nouveaux outils numériques qui vont être demain dans les entreprises et qui sont aujourd'hui dans leur organisme de formation. Donc il faut vraiment penser aux formateurs et à les former à ces outils-là.
Alors, de beaux exemples hein, sur la digitalisation des pratiques. On va aller voir du côté de Marek Lawinski, qui est responsable du pôle internationalisation au sein du 3CABTP, pour avoir des exemples au niveau de la mobilité. Bonjour Marek.
Bonjour Isabelle.
Alors, notre sujet aujourd'hui, c'est l'internationalisation. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est internationalisation et mobilité internationale ou mobilité européenne, est-ce que c'est différent ou pas, ou c'est la même chose ?
Il y a une grande différence. L'internationalisation, c'est tout un parcours de formation avec une composante internationale. L'internationalisation, pour nous, en 3CABTP, c'est avant tout donc, un programme de formation qui n'est pas que national, mais aussi international. Donc on essaie de préparer les jeunes à leur départ à l'étranger, pour qu'ils apprennent bien des choses à l'étranger, il faut qu'ils soient préparés en amont. Donc et une bonne préparation de la mobilité qui fait partie du processus d'internationalisation, mais ce n'est pas tout. Et après, il y a une exploitation derrière. C'est un processus assez complexe, qui consiste à bien mettre l'accent non seulement sur tout ce qui se fait en France, mais aussi à l'étranger, ce qu'on appelle vraiment un véritable parcours international.
D'accord, donc on voit que nos jeunes sont bien préparés. Et est-ce qu'à votre avis, l'internationalisation ou la mobilité aide les jeunes à mieux intégrer l'entreprise ? Vous allez me répondre oui, mais quelles sont les raisons principales de ce vecteur d'employabilité ?
Et surtout, une montée en puissance au niveau de l'autonomie. Les jeunes reviennent beaucoup plus matures, parce qu'à l'étranger, très souvent, ils sont confrontés à des situations imprévues, non pensées au départ, auxquelles il faut faire face, et ils apprennent, parce qu'ils n'ont pas le choix, mais en même temps, ils le font avec beaucoup de sérieux, de responsabilité. Donc, ils montent en compétences parce qu'ils deviennent plus responsables, plus autonomes, et c'est très apprécié des entreprises françaises.
Donc, effectivement, des compétences comportementales qui sont développées, aussi bien que des compétences techniques, et là, tout va bien pour ces jeunes.
Exactement. Un bon professionnel, c'est celui qui est à la fois un bon technicien, au sens large du terme, mais aussi celui qui sait gérer des situations imprévues en toute autonomie.
Merci beaucoup, Marek, pour cet éclairage.
Merci, avec plaisir.
Paola, Marek vient de nous expliquer en quelques mots, en quelques secondes, ce qu'était l'internationalisation des parcours. Donc concrètement, aujourd'hui, comment la mobilité se met en forme aujourd'hui ?
Se met en forme grâce à l'activité des acteurs engagés du terrain. Et quand je parle d'acteurs engagés, je parle des centres de formation d'apprentis qui sont vraiment la cheville ouvrière de cette mobilité européenne. Ce sont les centres de formation, en effet, qui vont, comme disait Marek tout à l'heure, préparer les jeunes, mais également tisser un réseau des partenaires européens pour pouvoir envoyer les jeunes à l'étranger, recevoir ces jeunes et également s'occuper de cette intégration de l'international dans les parcours de formation. Donc il y a on voit bien que c'est une mission importante, celle qui incombe aux organismes de formation. Et pour ce faire, les organismes de formation doit se doter du personnel dédié qui puisse mener à bien ses missions. Et la loi 2018 nous a quelque part facilité la tâche dans la création de ces postes des référents mobilité dans les centres de formation des apprentis. Il faut-il encore que ces référents mobilité puissent être accompagnés, formés, professionnalisés et qu'ils puissent effectivement avoir aussi du temps pour mener à bien leur activité. Donc, je dirais que la première chose pour rendre la mobilité européenne des apprentis une réalité, c'est celle de créer et accompagner les référents mobilité dans leur mission. Alors, au niveau collectif, il y a une dynamique forte qui a été initialement portée par l'agence Erasmus+, et qui EuroMobility a repris l'année dernière, qui consiste avec les 3CABTP, la NFA, les Compagnons du Devoir, les Chambres de Métiers, et encore d'autres acteurs que sans doute j'oublie en ce moment.
Les MFR, non ?
Les MFR, créer un parcours de formation, de professionnalisation de ces référents mobilité et le dispenser, ces parcours de professionnalisation. Donc actuellement, on est en train de lancer la deuxième session mutualisée de ces parcours de professionnalisation, qui est un parcours de professionnalisation assez conséquent. Parce que, comme on a dit, un référent mobilité doit appréhender un cadre réglementaire et juridique qui n'est pas simple, parce que quand on dit apprentissage ou alternance en général, on dit contrat de travail. Donc, on part à l'étranger dans un autre pays, quid du contrat de travail, à la fois en France ou dans un pays européen. Ces mêmes référents mobilité, comme je disais tout à l'heure, il doit aller à la recherche des partenaires adaptés pour mettre en place la mobilité, que ce soit des entreprises ou des centres de formation. Il doit négocier les contenus pédagogiques. Il doit demander les financements à Erasmus+, parce que voilà, il y a des réseaux qui sont très bien accompagnés, par exemple toute l'activité qui mène le 3 CABTP, mais il y a d'autres CFA qui n'ont pas un soutien si important, donc il doit demander les bourses pour la mobilité. Il faut parler anglais, n'est-ce pas ? C'est pas mal. Notre langue est étrangère, j'ai dit l'anglais pour simplifier. Voilà, c'est un métier complexe, les référents mobilité. Hein. Mais alors, je pense qu'ils s'éclatent. Quand ils
et alors justement, il y a des freins, vous l'avez évoqué à demi-mot, on en a pris conscience. Donc là, vous allez lancer un projet, le projet Mona.
Voilà, le projet Mona, mon apprentissage en Europe, c'est un projet qui est financé dans les cadres des France 2030. Et ces projets fédèrent à ces jours 31 organismes et 43 surtout centres de formation d'apprentis issus de tout réseau confondu, tout filière confondue et tout niveau des qualifications confondues. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a de plus en plus, on le sait fort bien, des apprentis qui se forment dans l'enseignement supérieur. Donc voilà, ces 43 acteurs engagés, pilotés par Europe Mobility, vont s'élancer dans la mise en place des postes de référents mobilité longue, donc des postes des référents mobilité comme j'évoquais tout à l'heure, et ils vont surtout travailler en synergie pour trouver des solutions à ces freins évoqués tout à l'heure. Donc pour chaque frein, quelque part, il y a un groupe de travail dédié ad hoc qui a été créé pour faire face aux contraintes du cadre réglementaire et juridique, pour faire face à la validation des acquis d'apprentissage, qui, on sait, c'est un peu le nerf de la guerre, pour faire face à l'intégration de la langue anglaise dans nos parcours de formation. Parce que, comme je dis tout à l'heure, nous, on pense qu'accueillir des jeunes étrangers, c'est important aussi. Faut-il encore que ces apprentis européens puissent peut-être suivre des cours en anglais. Et là encore, il y a la liaison avec la digitalisation, parce qu'on pense fortement que ces parcours de formation en anglais puissent être dispensés par la voie digitale. Et voilà, donc on commence activement la semaine prochaine, pour être précis. Et on est enthousiaste et on a la chance d'avoir des partenaires soutiens qui nous soutiennent. Comme on dit le nom. C'est bien que les partenaires soutiennent.
Un très beau projet. Et justement, quand on parle de la langue anglaise, quand on parle de toutes ces modalités, eh bien, nous allons avoir la vidéo de Pierre Touillon. Donc, Pierre Touillon, qui est chef de projet européen, mobilité et partenariat au sein du 3CABTP, qui a partagé son point de vue sur le sujet.
Alors Pierre, avec vous, on va voir deux autres aspects de la mobilité. Donc la première question qui me vient à l'esprit, c'est qu'on a passé effectivement la période Covid, donc on peut présupposer que la mobilité s'est arrêtée net et qu'il ne s'est rien passé pendant ces deux ans. Donc est-ce qu'à votre avis, c'est vrai ? Et la suite, est-ce que ça s'est bien développé et ça recommence ?
Alors c'est surtout les faits qui vont répondre. Oui, la mobilité s'est arrêtée en tant que déplacement à l'étranger, bien que plusieurs groupes aient réussi à partir sur des moments bien précis pendant la période Covid, en prenant toutes les précautions nécessaires. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, les référents projets européens sont restés très actifs en termes de prise de contact avec de nouveaux partenaires pendant cette période Covid, ils en ont profité. Et au final, on était dans les projets précédents à 600-700 demandes de bourse par an. Et en fait, dans le projet qui vient de démarrer sur la période 2022-2024, on a plus de 1000 demandes de bourse qui ont été faites. Donc en fait, non, la mobilité ne s'est pas du tout arrêtée pendant la période Covid. Ça l'a même boosté.
Ça l'a boosté. Donc c'est magnifique, belle réussite.
On est tout à fait content.
Donc une autre question, Pierre, en termes de mobilité, on pense à la langue, l'apprentissage de la langue. Donc comment sont formés nos jeunes à l'apprentissage des langues étrangères?
En fait, quelqu'un a dit un jour, je ne sais plus qui, on commence par la grammaire et ensuite, c'est la vie. Nous, on a choisi de démarrer par la vie et la grammaire viendra après.
C'est-à-dire donc, ce n'est pas un sujet, en fait.
En fait, ce n'est pas un sujet dans le sens où ça n'est pas un problème pour les jeunes, la langue. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les y préparer, puisque c'était le sens de votre question. Et effectivement, avant tous les départs en mobilité, il y a ce qu'on appelle une préparation pédagogique, linguistique et culturelle qui englobe une préparation à la langue. Mais l'objet n'est pas de les rendre autonomes dans une langue étrangère, d'accord, mais de faire en sorte qu'ils sachent se débrouiller, se faire comprendre et comprendre ce qui leur sera dit sur les chantiers. Et c'est cette compétence-là qui est développée plus que l'apprentissage
de la langue.
D'une langue.
Super. Merci beaucoup, Pierre.
Avec plaisir.
De belles réussites au niveau de l'internationalisation des pratiques et la digitalisation également. On passe maintenant à notre troisième partie, Fauteuil Club, avec notre témoin privilégié, Jean Arthuis. Bonjour Monsieur le Président.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et alors j'ai une première question. Pour l'acteur politique que vous êtes, la digitalisation des pratiques et l'internationalisation des parcours peuvent-ils peser sur l'emploi en France et en Europe ?
Peuvent stimuler l'emploi.
Stimuler.
L'internationalisation, c'est la reconnaissance de l'espace économique. Principe de réalité. Nous sommes en Europe. L'Europe, c'est d'abord un marché unique. Ça veut dire libre circulation des personnes, des marchandises, des services, des capitaux. Préparons-nous à la conquête de ce marché unique. La digitalisation, c'est l'instrument. L'instrument qui va faciliter cette ouverture internationale. Parce que grâce au digital, on pourra rester en relation quand on est apprenti et qu'on va accomplir une mobilité longue de plusieurs mois dans un autre pays. On pourra rester en relation avec son centre de formation d'apprenti, avec sa famille, avec son employeur. On pourra disposer d'instruments digitaux pour faciliter le problème linguistique. On trouvera le vocabulaire, on trouvera les formules et on s'en sortira. On sera à l'aise. Et puis, c'est l'occasion, grâce à une plateforme, de s'auto-évaluer pendant cette mobilité. Donc, on voit bien que la conjonction de l'ouverture internationale et du digital sont deux atouts extraordinaires.
Alors, face à ces deux énormes atouts, il y a de profonds changements, de nombreux changements. Et qui, selon vous, doit les mener ?
Je pense que ce qui va changer, c'est que dans cette mobilité, le jeune va vivre une expérience exceptionnelle. On pratique beaucoup des mobilités courtes de quelques semaines, ce qui est excellent. C'est une façon de mettre le pied à l'étrier et peut-être de donner envie de passer plus de temps, de s'immerger véritablement. Et lorsqu'on écoute des jeunes qui rentrent d'une mobilité longue, on voit bien que ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire compétences, le savoir-être, le savoir-faire, se sont considérablement améliorés. Les jeunes sont transformés. Ils comprennent le monde, ils en comprennent les enjeux, ils sont plus à l'aise, ils prennent confiance en eux-mêmes et confiance en leur avenir.
Alors si on veut passer à la vitesse supérieure au niveau de la mobilité et la digitalisation, est-ce qu'il y a des freins à lever? Si oui, lesquels?
Les choix, c'est d'abord, si on attend des pouvoirs publics qui nous disent quoi faire, ça risque de prendre un certain temps. Quand j'étais député européen, j'avais essayé de comprendre, d'évaluer, d'identifier les freins à la mobilité. Et ils sont nombreux. Les freins juridiques d'abord, parce que contrat d'apprentissage, c'est à la fois un contrat de formation, mais aussi un contrat de travail.
Bien sûr.
Et donc 27 pays en Europe, ça veut dire 27 législations différentes. Oui. Alors peut-être qu'en commençant par essayer de faire converger le droit de l'apprentissage, peut-être qu'on commence à faire évoluer le droit du travail en Europe. Des freins juridiques, je dis, mais aussi des freins financiers. Comment assurer l'autonomie financière d'un jeune quand il est à l'étranger? Comment assurer sa protection sociale en cas d'accident, en cas de maladie? Des freins académiques également. Est-ce que les quelques mois passés dans un autre pays vont être pris en considération au moment de la délivrance du diplôme par les autorités académiques? Il y a des marges de progression. Et puis, il y a des freins linguistiques. Est-ce que le jeune n'appréhende pas de partir dans un pays dont il ne pratique pas la langue? Et freins linguistiques, tout à l'heure, vous l'avez dit, l'ouverture internationale, c'est aussi la réciprocité. Ça veut dire que si nos jeunes partent, il faut qu'on se prépare à accueillir des jeunes. Et dans le projet pilote que nous avions développé au plan européen, on a constaté que des jeunes des pays de l'Est de l'Europe, constatant qu'il n'y avait pas de cours dispensés en anglais dans nos propres centres de formation, ne sont pas venus. Donc il faut que l'on se prépare, comme on le fait dans l'enseignement supérieur, dans les universités, les grandes écoles, à introduire quelques enseignements en anglais. Alors ça peut être d'autres langues. Mais objectivement, on pratique beaucoup l'anglais. Et l'un des atouts de cette internationalisation, c'est qu'un jeune qui part pendant quelques mois, même si ses rudiments d'anglais ne sont pas formidables au départ, au bout de quelques mois, il se débrouille, comme l'a dit notre grand témoin il y a un instant.
Alors, et sur ce parallèle avec le digital, vous avez évoqué un certain nombre de freins. Y a-t-il des freins aussi sur le plan digital? J'imagine que oui.
Je pense qu'il faut adapter les instruments digitaux. C'est ce que nous faisons avec le projet Mona que Paola a développé il y a un instant. Mais c'est de permettre aussi aux jeunes de s'approprier le digital et de comprendre que c'est un instrument extraordinaire et qu'on peut modifier les usages. On peut le maîtriser et être plus imaginatif, se faire accompagner par le digital, d'abord parce qu'on a accès presque instantanément à des connaissances que sans cela, qu'hier, on ne pouvait pas avoir. Donc, de permettre aux jeunes de se familiariser avec l'instrument et de comprendre que c'est un atout extraordinaire. Ça ne change pas les fondamentaux, mais on peut imaginer des usages différents. On peut être créatif, imaginatif, on développe l'audace, c'est extraordinaire. Donc, c'est un facteur de confiance. Donc, allons-y. Mais ça suppose qu'il y ait des initiateurs, parce que pour un CFA, c'est pas évident. J'ai évoqué les freins. Et bien souvent, les freins sont considérés comme un bon motif pour ne rien faire et ne rien changer. Or, le vrai enjeu, c'est de se projeter dans l'avenir. Avec confiance. Et on peut le faire. Or, pour que ça fonctionne et pour lever les freins, on a besoin de volontaires, c'est-à-dire de CFA qui inscrivent dans leur projet pédagogique une priorité pour le digital, mais aussi pour l'internationalisation des parcours de formation. Une fois qu'on a dit ça, on en tire les conséquences. Et donc, il faut qu'il y ait au moins une personne dans le CFA qui prenne en main la mobilité longue, et c'est pas facile. Il va falloir aller voir tous les maîtres d'apprentissage pour les convaincre que c'est formidable. Les convaincre que si leurs apprentis partent, il faut peut-être aussi accueillir des jeunes. Et c'est pas simple. Convaincre tous les collègues du CFA que c'est fantastique d'avoir quelques cours dispensés en anglais.
Donc avoir de la bonne volonté, être créatif, sortir du cadre, c'est
essentiel. Et avec des volontaires, il n'y a pas beaucoup de freins qui résistent. Ils trouvent toujours une solution. Alors, à charge pour nous de convaincre aussi les pouvoirs publics de faire évoluer les législations et les réglementations, parce qu'on ne va pas continuer comme ça. Chacun, dans son espace national, imagine l'avenir. Non,
c'est compliqué.
Je pense qu'on peut aller par l'internationalisation vers les bonnes pratiques, s'en inspirer et dire aux pouvoirs publics qu'il va être temps de faire converger les législations, les réglementations, les simplifier.
Alors justement, donc là, vous avez engagé un certain nombre d'actions par le passé. Il y a des opportunités, on parle de freins, donc forcément d'opportunités. Quelles sont les démarches, les actions à venir pour favoriser cette internationalisation?
Alors d'abord, il y a ce programme que nous allons appliquer. Nous avons constitué un consortium avec précisément 43 volontaires. Ça démarre. On se charge de leur professionnalisation. On espère que cette expérience va nous permettre de prototyper la démarche d'ouverture internationale. Nous avons organisé, la date n'est pas encore fixée, mais ce sera fin novembre ou début décembre, un événement à Bruxelles sous la haute présidence de la Commission et du Parlement européen et j'espère du Conseil également, pour porter à la connaissance des formateurs en Europe l'existence de ce que nous avons entrepris, qui s'inscrivait dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Nous allons avoir 43 référents mobilité qui vont aller toquer à la porte d'un certain nombre d'établissements pour dire « Bon, alors, quand est-ce que vous y allez, vous aussi, dans la mobilité et dans la réciprocité ?» Donc c'est en cours, parce qu'il faudra qu'il y ait des jumelages, en quelque sorte, des centres de formation hollandais, finlandais, italiens et français, pour définir les protocoles de formation, les conditions dans lesquelles on accueille les jeunes, parce que si des jeunes viennent pendant plusieurs mois, ce n'est pas seulement le temps qu'ils vont passer dans le CFA et qu'ils vont passer dans des entreprises, mais que font-ils pendant le week-end? Donc, il y a un accompagnement social qu'il faut imaginer et mettre en œuvre.
Pour booster la digitalisation et la mobilité, hein, on a besoin de financement, comme dans tout projet. Alors, est-ce qu'on parle de financement ou il ne faudrait pas imaginer ça comme un plan d'investissement d'avenir?
C'est fondamentalement un investissement d'avenir. Je pense que le premier des investissements d'avenir, c'est l'éducation et la formation professionnelle. Et la formation professionnelle, ce n'est pas seulement l'affaire des pouvoirs publics, c'est aussi l'affaire des entreprises, des familles. C'est une démarche collective. C'est ainsi qu'on prépare l'avenir. La formation professionnelle est essentielle. Et c'est au titre précisément des investissements d'avenir que nous avons déposé une candidature répondant au programme Compétences et métiers d'avenir, du secrétariat général aux investissements d'avenir, programme plan France 2030, que nous avons soumis notre candidature avec notre consortium Mona.
Alors, lorsque l'on voit on regarde votre parcours, donc la question qui nous vient, c'est pourquoi vous êtes engagé au regard des fonctions que vous avez pu occuper, celles que vous occupez aujourd'hui, pourquoi vous engagez sur cette mobilité et plus largement sur l'emploi, finalement, sur formation, emploi?
Parce que c'est fondamental. J'ai été maire, j'étais expert comptable, mais puis je suis devenu maire à 26 ans, à Château-Gontier, dans la Mayenne. Donc c'était l'époque, c'était en 71, des lois Chamand-Delmas qui créaient les CFA. Et je voyais des artisans et des chefs d'entreprise, « Ah oui, mais si on crée des CFA, qu'est-ce qu'on va leur apprendre ?» Il y avait une espèce de défiance entre le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation et des formateurs. Donc j'ai compris à ce moment-là qu'on ne pouvait pas continuer ainsi. Et en tant que maire, je me disais, l'avenir de ma commune dépend de notre capacité à accueillir des entreprises, parce que c'est comme ça qu'on va créer de l'emploi, parce que c'est comme ça qu'on crée des richesses et qu'on peut faire face aux besoins de la société. J'étais président de conseil départemental et je me suis toujours intéressé à la formation professionnelle, par le métier. Parce que la formation académique, ça ne convient pas à tous les enfants. Et on a eu tort pendant trop longtemps d'avoir une espèce de suspicion en disant, bah alors, on les appelait des arpètes, les apprentis à cette époque. Il faut avoir une autre approche. Et c'est l'affaire des chefs d'entreprise, c'est l'affaire des familles, c'est l'affaire... Et si on veut changer le regard de la société française sur l'apprentissage? Parce que bien souvent, l'apprentissage, on y allait parce qu'on ne pouvait pas faire autre chose. Eh bien, si on veut changer de regard de la société française, si déjà on dit qu'un jeune apprenti doit lui aussi parler une autre langue que la langue maternelle, si on dit que lui aussi, il a accès aux bourses Erasmus, comme les étudiants d'enseignement supérieur, peut-être qu'on va commencer à faire bouger les lignes.
Et revoir un peu, c'est ce que l'on entend aujourd'hui, c'est relancer cet ascenseur social.
Absolument.
On voit clairement.
Si vous allez à la rencontre des patrons de PME, et même quelquefois des sociétés cotées en bourse, nombre d'entre eux sont d'anciens apprentis. Parce que quelquefois, ceux qui avaient les diplômes les plus prestigieux, c'était une façon d'accéder à des emplois plus sécurisés dans la haute fonction publique. Les plus créatifs, les plus imaginatifs, ne sont pas forcément ceux qui ont le plus de diplômes académiques.
Tout à fait. C'est un constat que nous partageons, nous, aujourd'hui, acteurs clés de l'apprentissage.
Ce que j'ai entendu tout à l'heure,
me
conforte dans l'idée qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Il faut y aller.
Et il faut y aller.
Merci Jean Arthuis, merci d'avoir occupé ce fauteuil club. Nous allons pouvoir passer maintenant à la dernière étape de notre émission, Apprentissage Club BTP. Oui. Donc c'est le salon et donc nous allons y passer pour les quelques dernières minutes de cette émission.
Alors le salon, c'est la dernière partie de notre émission et c'est le moment de changer les derniers mots, les plus essentiels avant de se quitter. Vous savez, comme à la maison, quand les amis partent, on a envie de leur dire plein de choses. Eh bien, c'est les dernières questions qu'on a envie de vous poser. C'est si vous deviez faire une synthèse ou les trois éléments clés que vous souhaiteriez que l'on retienne de votre intervention, ça serait quoi? Donc, on va démarrer déjà par vous, Paola.
Très bien.
Une minute.
Non, une minute chrono.
Un peu plus.
Les trois éléments clés de ce qu'on vient de se dire aujourd'hui.
L'essentiel pour
L'essentiel
vous.
Pour ouais. moi. L'essentiel, c'est se dire Erasmus pour tous. Donc, l'essentiel, c'est dire l'ouverture internationale, elle est là pour tous les publics. Non seulement pour les alternants, d'ailleurs, hein, aussi pour les demandeurs d'emploi, mais ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'est le monde de l'alternance. Et cette mobilité doit être une mobilité immersive qui permet aux jeunes d'acquérir les compétences dont on parlait tout à l'heure. Donc, une mobilité des au moins 2 mois.
2 mois.
2 mois, nous retenons. Franck, en 3 mots, 1 minute.
On va essayer, c'est pas évident. Moi, je dirais que de mon intervention et de ce qu'a dit M. Arthuis aussi, 2 ou 3 points à relever. Le premier, c'est la digitalisation et le numérique. Mais au bon moment, au bon endroit, pour un tel public, ça c'est très important. Que ça doit être accompagné entre un centre de formation et l'entreprise pour que les outils convergent entre les deux. Et un troisième point que je tire aujourd'hui du discours de M. Arthuis, c'est comment intégrer en co-enseignement le digital, le numérique et une langue étrangère. Je pense que ça c'est important de voir comment ça peut se construire dans nos centres d'apprentis.
Merci Franck. Le mot de la fin, M. Arthuis, trois idées clés.
Immersion de 2 mois, plus ses affinités.
Oui.
Je pense que le couple digitalisation-internationalisation est une clé fondamentale pour la compétence, pour la compétitivité, pour la croissance, pour une capacité à produire plus, de telle sorte que l'on réponde aux attentes de la société et aux défis du défi environnemental, du défi énergétique, du cinquième risque. Pour faire face aux attentes de la société, il faut que nous soyons compétitifs. Nous avons besoin de compétences et la digitalisation comme l'internationalisation y contribue. Investissement fondamental, je me répète,
important.
L'éducation et la formation professionnelle.
Très bien. Merci. Merci à vous trois. Merci d'avoir partagé cette heure avec nous et donc d'avoir pu nous enrichir sur ce double sujet d'internationalisation et de digitalisation. Et donc, Isabelle.
Rendez-vous prochain épisode d'Apprentissage Club ETP au mois de décembre. Alors, on ne vous dévoile ni la date ni le thème. Nous sommes en train d'y travailler. Et un deuxième rendez-vous qui est important pour vous, un séminaire qui est organisé le 8 novembre prochain par la Direction des politiques de formation et l'internationalisation sur justement, effectivement, le vecteur d'employabilité de la mobilité internationale organisé par notamment Marek Lavinsky. Voilà, on vous aurez plus d'informations prochainement pour pouvoir vous inviter, bien évidemment. Merci beaucoup.
Merci
à tous et à très vite.
À bientôt.